Hop. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi j'ai un peu de mal. Quand j'ai trop de choses à penser, j'oublie un peu tout en même temps. Et alors là, j'avais encore oublié ma prédication à la maison. Donc c'est pour ça que je suis arrivé en retard, pour changer un peu. Alors ce matin, je vous propose de continuer dans les paraboles et d'aborder... une parabole qu'on intitule généralement la parabole des dix vierges. Donc c'est une parabole qui se trouve dans Matthieu au chapitre 25. Donc c'est une parabole que Jésus donne à la fin de son ministère, qui se trouve que dans Matthieu. Alors, je reconnais, on dit souvent que les paraboles sont des textes qui nous remettent en question. Parce que finalement, chaque texte de la parole nous interroge. En même temps, c'est vrai que cette parabole, quand je l'ai lue, quand j'ai commencé à l'étudier pour la partager avec vous, je me suis dit, j'y comprends rien. J'ai l'impression que ça n'a ni queue ni tête, que ça va pas, que les morceaux se collent pas les uns aux autres. Et alors je vais la lire, et puis on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut la recevoir, et ce que le Seigneur pourra nous dire avec elle. Donc je commence donc dans Matthieu au début du chapitre 25. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Alors, en lisant ce texte, je vous ai dit que j'avais du mal à le comprendre. Je pense qu'il y a quand même une distance culturelle, quand même, un petit peu, avec ce passage. D'abord, je comprenais pas bien qu'est-ce que font ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles font là, à quoi elles servent, pourquoi est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles attendent, le marié. Alors, au début, dans ma première façon de comprendre, je me suis dit peut-être que c'est des épouses, en fait, que c'est un mariage polygame, et qu'elles attendent celui qui va les épouser. Je me disais, bon, c'est quand même pas très... Voilà, ça me choquait un petit peu, quand même. Après, je me suis dit, OK, mais pourquoi est-ce qu'elles partent à la rencontre du marié dans la nuit, comme ça? Quel est le sens de ce déplacement, se retrouver toutes seules avec leur lampe au milieu de la nuit pour accueillir quelqu'un? Je ne comprenais pas. Et pour finir, ce texte conclut en disant « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous avez peut-être remarqué qu'elles se sont endormies, ces jeunes filles. Donc pour le coup, elles n'étaient pas vraiment réveillées. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus nous raconte ce passage-là comme ça? Vraiment, j'avais du mal à saisir le sens de cette parabole, même si évidemment le contexte nous guide hein, au chapitre 24. Jésus nous parle de son retour de sa venue, du jour du Seigneur, du fait qu'il viendra sans que personne ne l'attende, que certains seront pris, que d'autres seront laissés. Donc le contexte, c'est le retour du Seigneur et l'exhortation qui accompagne toute cette annonce, c'est « tenez-vous prêts ». Et le texte nous le dit, « tenez-vous prêts, parce que vous ne savez pas le jour ni l'heure ». Donc on comprend l'intention. Malgré tout, il faut quand même essayer de se plonger un petit peu dans ce qui est dit pour arriver à en retirer quelque chose. Et pour finir, donc, l'interprétation habituelle de ce passage-là, c'est de dire, bon ben voilà, donc les jeunes filles censées représentent les chrétiens nés de nouveau, les jeunes filles insensées représentent les chrétiens de nom, et donc l'huile qui leur manque, c'est l'Esprit de Dieu, qui est donné finalement aux chrétiens nés de nouveau et qui ne l'est pas à ceux qui ne le sont pas. Alors, évidemment, on voit bien que dans ce texte, il y a un jugement qui est porté sur les jeunes filles insensées, qui est qu'elles ne pourront pas entrer dans la salle des noces. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a un jugement et une condamnation qui est sévère. Sur ces jeunes filles. Donc on comprend bien qu'effectivement, ça nous parle du salut. Ça nous parle de ceux qui pourront entrer avec l'époux. Alors l'époux, évidemment, c'est représente le Christ. Il y a plusieurs histoires, en fait, qui sont racontées où on comprend bien que Jésus, en fait, parle de son retour et se présente comme l'époux. Et l'épouse, c'est l'Église. D'accord ? Donc, et au passage, il y a même des traductions, en fait, où il est dit que l'époux vient avec l'épouse. En fait, quand ils arrivent à deux. Donc, juste pour éclairer sur le fait que ces jeunes filles, ce n'est pas les mariées. D'accord ? Donc, ces jeunes filles, elles sont là pour accueillir l'époux. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu, mais... Donc cette interprétation qui donne à l'huile le sens de l'esprit. Alors j'avoue moi que cette façon de lire ce texte me convient pas vraiment. Alors je peux comprendre qu'on le lise comme ça. Personnellement c'est pas comme ça que je l'ai compris. En particulier parce que moi, ce qui me dérange dans cette façon de le lire, c'est que les jeunes filles insensées, elles en ont de l'huile. D'accord ? Dans leur lampe, elles commencent leur voyage avec de l'huile. Elles ont de l'huile. Et puis, sauf que au moment où l'époux arrive, comme elles n'ont pas fait de réserve, elles n'en ont plus. Donc, pour moi, ça me gêne un petit peu de penser que le salut dépendrait de la quantité d'esprit qu'on est stocké. Et je ne pense pas que ça fonctionne de cette façon-là. Et donc je vous disais en introduction qu'il y a peut-être une distance culturelle avec ce texte, à mon avis, à peut-être à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la façon dont les mariages étaient organisés, le fait que les époux étaient accueillis par des personnes qui allaient à leur rencontre et qui étaient là pour leur rendre honneur. Bon, c'est je pense plus trop comme ça qu'on fait maintenant. C'est peut-être pour ça que je ne comprenais pas qu'est-ce que ces jeunes filles faisaient là. Donc, elles sont là pour rendre gloire, en fait. Voilà. Et puis, la deuxième distance, c'est cette histoire d'huile. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'éclaire plus. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que les plus anciens parmi nous l'ont déjà fait. S'éclairer avec alors, peut-être un réchaud à pétrole ou avec une lampe à huile. Voilà, moi, j'ai jamais fait ça. Malgré tout, à cette époque-là, c'était quand même un objet du quotidien. D'accord ? C'était ce qu'on utilisait en permanence. L'huile était utilisée pour tout, en fait. Donc c'était vraiment un objet du quotidien. Et moi, la façon dont je le reçois, c'est que Jésus utilise cet objet du quotidien pour nous dire quelque chose. Alors, je vais vous proposer de faire une petite transposition à notre époque, de ce que pouvait bien représenter l'huile et cette histoire de lampe avec ce que nous, on pourrait vivre. Donc, je vous propose voilà, de transposer avec, imaginez que vous ayez été invité au Festival de Cannes, pas très loin, vous avez reçu des tickets. Et il y a une soirée qui est organisée à l'issue de la représentation. Et vous avez été, on vous a dit, bien écoutez, tu vas être appelé. On va te dire en fait où se trouve la soirée, dans quelle villa, dans les Hauts de Cannes, avec tout le gratin cinématographique de la côte. Et on va t'appeler, donc attends. Et donc voilà, vous êtes plusieurs à avoir été invités à attendre le coup de fil qui va vous dire où aller. Et donc alors pour certains attendent et voilà prennent leur téléphone et puis ils vont jouer un peu à Candy Crush. Ensuite ils vont aller sur Facebook s'ils ont plus de 40 ans, ils vont aller sur Instagram s'ils en ont moins de 40, ils vont regarder des vidéos YouTube avec des chats, tout ça, tout ça. Et puis les autres, eux, ils vont mettre leur téléphone sur veille, le ranger dans leur poche, et puis ils vont attendre. Et l'attente se prolonge, et tout le monde s'endort. Bon, très bien. Et au moment où les organisateurs de la soirée commencent à appeler, eh bien, il y a ceux qui ont encore de la batterie sur leur téléphone. Ils ont encore un petit peu de batterie, donc quand on les appelle, ça sonne, ils peuvent répondre, on leur dit, ben voilà, va prendre ton Uber à tel endroit, et puis va à telle adresse. Les autres, eux, leur téléphone, hop, il s'est éteint, plus de batterie, l'appel, ils l'ont raté. Et quand ils commencent à se demander comment faire pour rejoindre le truc, ah mince, il faut trouver un chargeur. Alors, ils cherchent un chargeur, ils cherchent, au bout d'un moment, ils arrivent à le trouver quand même. Ils téléphonent, ah ben oui, non mais voilà, donc ok, donc ils arrivent, mais ils arrivent en retard. 2 heures après le début de la soirée, les portes de la villa ont été fermées. Et on leur dit, ben non, c'est trop tard, la soirée, tous les invités sont là, toi, tu restes dehors. Alors, c'est pour vous. Il me semble que pour moi, le sens de cette histoire, il se trouve dans quelque chose comme ça. Parce que je ne sais pas pour vous, mais si moi, j'organise une soirée et que mes invités me disent, ah ouais, mais non, j'ai pas pu venir parce que ma batterie de téléphone, elle était à plat. Moi, je me dirais, tu te moques un peu de moi quand même. D'accord? C'est pas très compliqué de prévoir, d'avoir un téléphone chargé au moment où tu sais que je vais devoir t'appeler. Et si tu le fais pas, c'est que mon invitation, tu la prends pas au sérieux. Tu t'en fous en fait du fait que je t'invite et que je t'ai dit que j'allais t'appeler. Et pour moi, effectivement, donc dans ce texte, Jésus nous présente les jeunes filles insensées de cette façon-là. Elles n'ont pas pris au sérieux l'invitation. Parce que le fait de préparer, de garder de l'huile pour pouvoir avoir une lampe allumée au bon moment, ça fait partie de la vie quotidienne. C'est ce que tu fais tous les jours. Tu t'assures que, en te projetant dans ce que tu vas devoir faire, si tu le prends vraiment au sérieux, tu vas t'assurer que, ok, il te reste de l'huile. Comme nous, on s'assure qu'effectivement, on a toujours de la batterie sur notre téléphone portable quand on sait que, on va en avoir besoin et que l'appel qui arrive est important. Et les jeunes filles sages, elles, ben elles ont anticipé. Elles se sont dit, effectivement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps va prendre le fait voilà, que l'époux arrive. Je ne sais pas. Alors, comme je sais que cette rencontre est importante, je prends mes dispositions et je m'assure que je vais être prêt, que je vais être prêt au moment où l'appel arrivera. Et ça, je pense que c'est le premier enseignement de ce texte. L'effort à faire pour être prêt, on le voit, il n'est pas très important. Il n'est pas très important. C'est pas l'effort en lui-même qui compte dans cette histoire. Ce qui compte, c'est d'avoir mis suffisamment d'importance à la rencontre, à l'appel, pour l'avoir préparé, pour avoir fait ce qu'il fallait pour être prêt. Cette histoire de sage et d'insensé, ça vous rappelle peut-être la parabole que Luc a étudiée il y a pas très longtemps, il y a un mois, sur le fait de construire sa maison sur le roc ou sur le sable. Et la terminologie est la même, d'accord ? Sage opposé à insensé. Dans le cas de la construction de la maison, on voit bien qu'il s'agit de notre vie, ici. Et le texte nous dit, voilà, celui qui est sage, c'est celui qui a écouté la parole, qui l'a mis en pratique, et même dans le texte de Luc, c'est celui qui a creusé et creusé profondément pour asseoir les fondations de sa maison sur le roc. Là, il s'agit de construire sa vie, et la sagesse, l'intelligence est mise en œuvre dans ce processus. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une assise solide pour sa vie ? Eh bien là, c'est la même chose. Là encore, il y a une question d'intelligence et de sagesse pour se projeter et prendre conscience du fait que eh bien, notre vie va être jugée, que nous allons rencontrer notre Créateur et notre Juge, et que la façon dont nous allons être accueillis va dépendre des choix que nous avons faits aujourd'hui. D'accord ? Là, il s'agit, c'est un texte qui nous parle de la fin des temps, qui nous parle pas, alors, qui nous parle en partie seulement de notre quotidien, mais qui nous parle surtout de ce que nous projetons, de la façon dont nous projetons. Vous avez peut-être entendu parler, il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix, qui a fait un petit peu de bruit, qui s'appelle Défi cosmique. Ça raconte l'histoire, en gros, d'astronomes qui découvrent qu'une météorite fonce sur la Terre et qu'elle va détruire la Terre. Voilà. Et ils essayent de prévenir les gens. Et tout le monde s'en fout. Les politiques pensent juste à leur réélection, les médias pensent à faire de l'audience. Tout le monde a envie de faire la fête, personne n'a envie de se prendre la tête, et au bout du compte, ok, la météorite arrive et crac. Bon. Évidemment, alors cette histoire, en fait, elle est racontée comme une allégorie, finalement, du changement climatique. Et du fait qu'on a beau prévenir que le climat est en train de changer et que la catastrophe est devant nous, les gens ont tendance à se fermer les yeux et à pas vouloir écouter et à pas vouloir changer. Et le sens de tout ça, c'est de dire, si on prend vraiment les choses au sérieux, on doit réagir. Et bon, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez du changement climatique, hein, la question n'est pas vraiment là, mais par rapport à ça, bon, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment urgent et important, et quand je regarde ma vie, je me rends compte que je ne suis pas complètement conséquent avec ça. D'accord ? Tous les changements que j'aurais pu faire pour participer au fait d'éviter les conséquences du changement climatique, je vois bien que dans ma vie, je ne les fais pas, je vais pas au bout. Je ne vais pas au bout de ce raisonnement-là. Et pourquoi ? Alors, par paresse, hein, bien sûr, par égoïsme, et puis aussi parce que je me dis, on est plein, là. On est plein sur le coup, hein. Je ne suis pas tout seul à... Donc même si je remplace ma chaudière à fioul par une climatisation, ça ne va pas changer grand-chose. Bon, on dilue. Chacun est responsable, tout le monde est... voilà. Donc ce n'est pas moi tout seul. Et on retrouve cette notion-là dans la réaction des jeunes filles insensées. Au moment où il faut pouvoir sortir, accueillir l'époux, et qu'elles, quand elles n'ont pas quand elles n'ont pas l'huile dont elles ont besoin, elles se tournent vers les autres. Elles disent, vous ne pouvez pas nous, vous pouvez pas m'aider, nous aider à nous donner un petit peu d'huile. Voilà, on se dit, bon ben ok, on sera à plusieurs, et puis chacun sera un petit peu responsable. Et ce texte nous dit, oui mais non, là la responsabilité et le choix, ils sont autant le voyage est collectif, autant le jugement, lui, il est individuel. Le choix que chacun a fait, il l'a fait pour sa propre vie. Et le fait d'avoir pris au sérieux l'appel que Christ donne à chacun d'entre nous, eh bien, c'est la réponse individuelle qui va compter au moment où le jugement sera là. Alors, vous savez que dans notre société, dans notre culture, il y a plein d'histoires de fin du monde. D'accord ? Si vous regardez un peu les films qui sortent, les séries, etc., il y a plein de séries qui nous parlent de la fin du monde. Il y a différentes façons d'aborder les choses. Hein. Ça peut être des zombies, ça peut être une apocalypse nucléaire, ça peut être... Bon, il y a plein de choses différentes qui... Voilà, c'est représenté de différentes façons. Parfois c'est drôle, parfois c'est effrayant, parfois il y a de l'espoir, parfois c'est complètement déprimant. Ça dépend de comment c'est fait. Et en règle générale, dans ces histoires, il y a un voyage. Les gens se déplacent. D'accord ? Ils doivent partir d'un endroit pour aller vers un autre. Bon, c'est comme ça. Et dans ce passage... Eh ben, c'est un peu pareil. C'est aussi une histoire de fin du monde, parce qu'on comprend bien le contexte. Hein. Et les gens à qui Jésus a donné cette histoire-là, le contexte était clair. Il parle de son retour et de la fin du monde tel que nous le connaissons. Donc c'est une histoire de fin du monde. Et là encore, il y a un voyage. Les jeunes filles, le texte nous dit, les jeunes filles partent. Elles partent de là où elles sont, et elles partent rencontrer le marié. Dans les passages précédents, quand Jésus parle de son retour, il insiste surtout sur l'attitude de ceux qui seront présents au moment de ce retour. D'accord ? Certains seront en train de moudre du grain, un sera pris, l'autre laissé, d'autres seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, etc. Ici, on voit que le déroulé de ce retour n'est pas tout à fait le même. Le voyage a commencé pour ces jeunes filles, mais l'attente, le voyage a duré, plus que prévu. Duré à tel point qu'elles ont fini par s'endormir. Et que c'est seulement après qu'elles sont réveillées. Pour la grande majorité des chrétiens, et probablement pour nous aussi, si on suit la statistique de tous les autres, eh bien, pour nous aussi, le retour de Christ ne se fera pas de notre vivant. En tout cas, voilà, pour la majorité des chrétiens, on va dire, sont morts. Et le retour n'intervient qu'au moment de la résurrection. D'accord ? Et moi, je le lis comme ça, ce passage-là. D'accord ? Je le comprends comme... Voilà, l'attente a duré, tellement duré, que eh bien, les jeunes filles se sont endormies et beaucoup de chrétiens sont morts avant d'avoir pu le vivre, ce retour. Mais le voyage a commencé. Le voyage a commencé durant... notre vie. C'est maintenant qu'il commence le voyage. Et c'est intéressant de se représenter cette rencontre comme l'aboutissement d'un voyage. Dans Hébreux, au chapitre 11 et, au verset 13. Il nous est dit, donc c'est un passage qui parle des géants, des héros de la foi, des héros de la foi, qui, au passage, pour la plupart, étaient des nomades, hein. D'accord, hein, on sait bien, hein. Tous les patriarches étaient des nomades, des gens qui voyageaient. Et il nous est dit, voilà, donc au verset 13, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Dans le voyage, et surtout un voyage de fin du monde, la question c'est qui va survivre? Et de quoi les gens ont besoin pour survivre? D'accord? Alors, quand il y a une apocalypse zombie, il faut partir avec un fusil, des bouteilles d'eau, une lampe de poche. Bon voilà, il faut prendre des choses. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans ce qu'on emmène. Dans cette histoire, ce qu'il fallait emporter, c'était de l'huile. Parce que le voyage se fait de nuit. Le voyage, ça implique l'idée qu'il faut laisser des choses derrière soi. On ne peut pas tout prendre quand on part en voyage. Ça fait 2 jours, avec mes enfants, on a décidé de faire un grand rangement. On a vidé notre cave. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, comment vous fonctionnez. Moi, j'ai tendance à accumuler. Et voilà, j'accumule. Et à un moment donné, je pète un plomb. Et je dis, bon, faut faire quelque chose. Et donc, ben voilà. Donc là, c'était okay. Une fois tous les 10 ans. On sort tout, on jette les 3/4 de ce qu'on a entassé. Et puis voilà, et on arrive à quelque chose d'un peu mieux rangé. Mais ça met en évidence que si je devais être nomade, je serais quand même bien embêté. Parce que vu la quantité de choses que j'ai pu accumuler, des choses voilà, dont les 3/4 méritent d'être jetées à la poubelle, bon, on voit bien que la notion de qu'est-ce qui est nécessaire, quand on est bien installé, c'est pas... Vous voyez, il y a la notion du nécessaire, la notion du superflu, et puis il y a l'encombrant. Vous voyez ? Et on a tendance à empiler. Bon. Ce texte nous rappelle que nous sommes en voyage. Nous partons, nous sommes partis pour rencontrer l'époux. Et dans ce voyage, qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour aller au bout du voyage? C'est ça qui s'est posé comme question aux jeunes filles sages et aux jeunes filles insensées. On ne sait pas ce qu'elles ont emporté, les insensées. Si elles ont emporté des trucs en plus. Ou... Bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nécessaire, elles ne l'avaient pas. Alors que les jeunes filles sages, Elles avaient réfléchi à qu'est-ce qui est nécessaire pour aller au bout. Alors, ce texte nous propose un changement de perspective. C'est ça qu'il nous propose, un changement de perspective par rapport à nos vies, à la façon dont on les construit, dont on les vit, à qu'est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on reçoit l'appel à être éveillé? Ce texte se conclut en nous disant « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Vous avez peut-être entendu parler de ce courant de pensée qui est très critiqué en France, qui s'appelle le courant woke. D'accord ? Woke, en fait, c'est C'est un espèce d'argot américain pour dire éveillé. Et l'origine de ce mouvement, c'est un éveil à la conscience des inégalités. D'accord ? Des inégalités de race, des inégalités de genre. Bon. Alors, je passe sur ce qu'on peut dire de ce mouvement et de comment il a évolué, mais l'idée que nous devons être éveillés, ben, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture. En France, il y a quelques années, un gars qui s'appelait Stéphane Eiffel, qui nous disait « Indignez-vous, réveillez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous, et puis mettez-vous, voilà, vous endormez pas. » Et Jésus nous dit pareil. Il nous dit aussi « Éveillez-vous, soyez réveillés. » Et évidemment, cet éveil est différent de l'éveil que nous propose le monde. Même s'il y a des points de contact, hein, le fait d'être sensible à la souffrance qu'il y a autour de nous, ben, il suffit de se rappeler ce texte qui nous parle aussi du jugement et qui nous parle, on l'a entendu ce matin, dans ce que Gilles nous a dans sa prière, le fait que quand on aide un des plus petits, c'est le Christ qu'on aide. Donc cette sensibilité à la souffrance, Jésus nous la propose, mais cet éveil, il est la conséquence d'un jugement. Parce que nos vies vont être jugées, un jugement qui s'annonce, mais qui ne donne pas de date. On ne sait pas quand le jugement viendra. Et c'est pour ça qu'on doit être révélé, parce que ce jugement va révéler ce qu'on a pris au sérieux. Est-ce que l'appel que le Christ nous a donné, est-ce qu'on l'a pris au sérieux? Est-ce qu'on a investi dans cette relation à Dieu ce que Dieu attend? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était tellement accessoire que quand le Seigneur nous demandera « Est-ce que tu m'as donné ta vie ?» on sera incapable de répondre. Et ce jugement révèle aussi qu'est-ce qu'on a jugé de nécessaire à prendre dans nos vies. Alors, on connaît l'enseignement de Jésus là-dessus, sur le trésor. Mais là, il ne s'agit même pas tellement du trésor qu'on a construit, de la maison qu'on a pu bâtir avec des choses qui sont bonnes ou inutiles. Mais c'est de savoir si ce qu'on a emmené avec nous, c'est le Christ. Parce que la parole nous dit « il est la porte ». On pourrait ajouter « il est la clé ». Alors, je pense que les clés n'existaient pas à l'époque de Jésus. Je ne suis pas très fort en serrurerie, mais je pense que c'est venu après. Mais il est non seulement la porte, mais il est aussi la clé. Il est celui qui nous permettra d'entrer. C'est lui qui est notre invitation. C'est lui qui est nécessaire à notre voyage. Et ça vaut la peine de se poser la question de savoir si c'est lui que j'emmène avec moi tous les jours, ou on pourrait le dire autrement, est-ce que c'est lui que je suis tous les jours? Est-ce que c'est sur son chemin que je marche, pour reprendre les images qu'il nous a données? Donc, une fois de plus, ce texte n'est pas forcément facile à aborder, mais il nous pose des questions, comme d'autres qui nous parlent de cette fin des temps. Il nous pose des questions sur notre vie, sur les choix que nous faisons aujourd'hui, et il nous invite à revoir nos priorités et ce qui est important à nos yeux. Je vous remercie. Je m'arrête là.